Vous écoutez RTL.
11h et bientôt 4 minutes sur RTL. Place à la bonne heure avec Stéphane Bern. Bonjour Stéphane.
Bonjour Bénédicte, vous nous aviez manqué.
Non, bon, je voilà. Reviens. Eh ben, vous me manquez aussi.
Eh bien, je vous retrouve à midi, pour un nouveau point sur l'actualité. À tout à l'heure, mais nous nous plongeons dans la bonne heure avec Guillaume Gallienne, notre invité du jour.
Bonjour.
Voilà une semaine qui commence bien. On va parler de son film Marilyn qui fait beaucoup parler et même autour de la table, on est là. Très excité, alors qu'on l'a vu, vous voyez, il va sortir le 15, mais on l'a déjà,
on a déjà vu. On a de la chance.
On va pouvoir vous en parler et vous donner envie d'aller le voir. Mais je vous présente d'abord mes petits camarades. Je suis entouré aujourd'hui, eh bien, de Cyprien Sini.
Bonjour à tous.
Il connaît toutes les news du web.
Ouais, tiramisu, bonbons et courgettes.
Pas mal.
Bien, le menu me convient. Dans cet ordre-là.
Régis Maillot, VDB.
Bonjour. La vie de Berne, 11h50, ouais. On relatera votre week-end de la Toussaint.
Là où t'as Toussaint,
c'était pas un week-end.
Ah bon?
C'était un mercredi-jeudi.
C'était mercredi.
Le week-end, on appelle du week-end prolongé quand même.
Ah mais j'ai pas rien prolongé, j'étais là monsieur. Ouais, ah bon, Éric Dussard est avec nous.
Bonjour à tous.
Ah bon?
Bonjour Zabine Pélé. On retournera à l'école avec les personnalités qui sont prêtées au jeu de l'interview par les enfants dans une école.
C'était très bien,
hier soir sur C8. Et puis il y a eu d'autres choses ce week-end à la télé. Claire Chazal, dans On n'est pas couché.
Ah oui, bien accueilli.
Bien accueilli par les gens en plateau, un peu moins par le public qui semblerait, vu les audiences, mais c'était pas mal du tout.
Et nous terminerons comme tous les jours cette émission avec votre test musical, Patrice Carmouche.
Eh oui. Je le consacre à Marilyn, Marilène, Marilou, enfin voilà, toutes les chansons.
Ah,
ça m'inspirait.
Ah, ouais. Et alors ah ben c'est pas mal ça ce qu'on vous fait gagner, tenez.
Ouais. Genre pour une fois.
Une escapade de 3 jours, 2 nuits en chambre double à l'hôtel Relais du Silence, domaine des Tomeaux près d'Amboise. Je crois que j'ai dormi. Oui. Petit déjeuner, dîner pour deux. C'est au cœur des châteaux de la Loire. Le domaine des Tomeaux est idéalement situé aux portes de la Touraine. En pierre blanche de tuffeau et briques du 18e. Il y a 29 chambres seulement décorées aux couleurs du monde. Et c'est vraiment. Je crois que c'est très très bien ce Relais du Silence.
Parce que l'idée c'est quand même de dormir dans le même lit que vous.
Mais David, c'est le lit du général de Gaulle.
Là,
c'est
le lit de trois personnes. Ils ont refait.
Depuis que vous êtes allés, ils ont été obligés. Vous avez fait une fête là-bas.
Ils ont été obligés. Alors, pour cela, appelez au 3210 ou 74-900 par SMS avec le code bonheur. Je vous présente notre invité. Il est assurément l'un des acteurs et comédiens les plus doués de sa génération, qui se révèle à la faveur de son second film un vrai cinéaste qui soigne autant l'image qu'il développe un propos. Si l'on considère que son premier film, Les Garçons et Guillaume à table, était l'adaptation réussie au cinéma de son spectacle et de son histoire personnelle que personne d'autre n'aurait pu réaliser et jouer, son deuxième long métrage, Marilyn, fait de lui un authentique réalisateur de films dru, qui filme dru comme il aime le rappeler, sans fioriture, pour évoquer la vie d'une jeune femme aussi blonde et jolie que Marilyn Monroe, qui n'a pas plus les mots pour se défendre et en voulant devenir actrice se trouve projetée dans un monde cruel où elle subit d'amères humiliations. Sans doute a-t-il été influencé par ses autres travaux d'Hercule, lui qui est un bouillon de culture à lui tout seul et fait germer dans son cerveau en ébullition 1000 projets qui se bousculent au portillon, parce qu'il y a chez Marilyn l'expérience de la cruauté qu'il a expérimentée en jouant Lucrèce Borgia à la Comédie Française et la destinée d'une Cendrillon, puisqu'il a mis en scène la Serentola de Rossini à l'Opéra Garnier. Au final, Marilyn est une formidable réflexion sur ce qu'est qu'être une femme dans notre monde sans avoir les mots pour se défendre. Avec nous, celui qui maîtrise la langue de Molière comme personne, mais aussi celle de Shakespeare, de Pushkin et de bien d'autres, j'ai nommé Guillaume Gallienne.
Bonjour.
Alors on va parler, cher Guillaume, de votre deuxième film, Marilyn, qui sort mercredi, qui a été ovationné, il faut le dire, au Festival d'Angoulême. Mmh. Mais avant même la sortie du deuxième, on sait quel sera votre prochain film. Vous allez adapter le roman de l'actuel Premier ministre, Édouard Philippe, Dans l'ombre. C'est ça.
Ah mais non.
Pas du tout. On le dit souvent.
Non,
on le dit
c'est beaucoup. La presse qui.
Mais oui,
c'est la presse qui a décidé de sortir ça, mais non.
Mais non.
Mais même pas.
En tout cas,
c'est dommage, c'est assez érotique.
Non, mais le bouquin est très bien. C'est très intéressant parce que ça raconte le.
Une campagne.
En fait, non seulement une campagne, mais c'est le point de vue d'un apparatchik et ça raconte aussi la paranoïa du bonhomme qui est très intéressante. Mais non, pour l'instant, non.
Est-ce que vous avez été aussi cruel sexuelle que le réalisateur que vous filmez dans Marilyn.
Non, bah non, mon Dieu. Non, mais attendez, l'humiliation et tout ça, ça dure, c'est le premier tiers.
Ah, mais ça m'a beaucoup plu.
Mais, après, c'est la bienveillance. C'est le vrai propos, c'est la bienveillance quand même.
Bien sûr,
mais c'est vrai, que le premier tiers, ouais, c'est un peu hard.
Oui, ah,
oui. C'est un acteur allemand incroyable qui s'appelle Lars Eidinger, qui est un acteur très connu de théâtre et qui, là, en effet,
il charge. On va en parler dans un instant. Et Guillaume Canet, je vous ai préparé une interview Marilyn, parce que évidemment Marilyn Monroe, Marilyn le film, il y a quand même quelques points communs. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern.
À la bonne heure
sur RTL.
Et nous sommes avec Guillaume Gallienne pour son film Marilyn qui sort en salle le 15 novembre. C'est déjà annoncé comme un événement, évidemment. Alors, on va, puisqu'on parle de Marilyn, et bien que le film n'ait pas grand rapport avec Marilyn Monroe, si ce n'est le prénom de l'actrice, qu'elle est blonde, jolie, et que sans doute Marilyn Monroe n'avait pas forcément tous les mots pour se défendre dans la vie. Je vais même servir de quelques-uns des films de la divine Monroe pour cette interview. Est-ce que vous êtes du genre à lancer une bagarre pour une blonde ?
Pour la défendre, oui.
Oui. Est-ce qu'il peut vous arriver de dire « Chérie, je me sens rajeunir »
Oui. Oui.
Les hommes préfèrent les blondes. Et vous ?
Non, moi je préfère.
Vous avez choisi une brune.
Oui, je préfère les brunes.
Certains l'aiment chaud, et vous ? Bah, la Blanquette, oui. Mais la Blanquette, c'est le meilleur chaud.
Ça va être un joli film.
Est-ce que chez vous, le démon s'éveille la nuit ?
Oh non, pas seulement. Non, non, plutôt la journée.
Qu'est-ce qui vous a demandé, ou pourrait vous demander, 7 ans de réflexion ?
Mon métier.
Les comédiens, les artistes, ce sont des désaxés ?
Non, de hypersensible.
Est-ce qu'il y a dans la vie une rivière sans retour ?
La vie est une rivière sans retour.
Je demande comment on va arriver à la Corée du Nord. On va voir, mais...
Nous avons su justement.
C'est vrai, Stéphane.
Une petite lettre.
Expliquez la tradition à notre invité.
Nous avons un nouvel ami.
Oui.
C'est Kim Jong-un.
Ah oui, vous avez des bons amis.
Non, mais parce que les Français ne l'aiment pas.
On va essayer de le...
Et on essaye avec Patrice. On essaye de le vendre un peu.
De mieux le connaître.
Et donc, il écrit... J'aime beaucoup ce monsieur Gallini. J'ai vu Guillaume et les glaçons à table.
Mais ça, c'est Marie-Mathieu, c'est pas Kim Jong-un.
Mais arrêtez, elle vient la semaine prochaine, sois gentil avec elle.
Ah, chouette, on va
chanter. Serait-il d'accord, contre une bonne somme d'argent, au moins 4 millions 120 000 won, c'est à peu près 4 000 euros, hein, vous en de réaliser un film à ma gloire? PS, merci de préciser qu'il aurait intérêt à pas refuser. Voilà, nous avons fait davantage connaissance avec Kim Jong-un.
Mais c'est gentil, merci. Mais là,
vous êtes débordé.
Là,
il est débordé. En plus, aux États-Unis.
Mais qu'il appelle mon agent.
Oui, je vais lui dire d'appeler votre
agent. Il n'a pas pris Edouard Philippe, mais peut-être Kim Jong-un. On va voir.
Allez, on va retrouver dans un instant Guillaume Gallienne. On va parler maintenant du fond de Marilyn avec Adeline Dermy, Vanessa Paradis, Alice Paul, Eric Ruff, Xavier Beauvois, avoir une distribution éblouissante. Eh bien, dans un instant, tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
Et nous retrouvons Guillaume Gallienne en direct et en public sur RTL.
Rebonjour.
En salle le 15 novembre, Marilyn, votre deuxième film avec Adeline Dermy, qui est votre collègue
de la Comédie française,
qui est extraordinaire. Vanessa Paradis, que vous avez sublimée, qui est incroyable, merveilleuse.
C'est vraiment une merveilleuse actrice.
Alors, vous aviez Alice Paul, Eric Ruff, Xavier Beauvois. Vous avez surpris tout le monde avec votre premier film, qui était assez autobiographique, Guillaume et les garçons et Guillaume à table. Énorme succès, 5 Césars. Là, vous allez surprendre votre public. C'est-à-dire, si les gens pensent aller voir une franche comédie...
Non, c'est pas une franche comédie. C'est un film lumineux, mais qui commence quand même dans la douleur. Et en fait, il m'a été inspiré par plusieurs choses. D'abord par une femme que j'ai rencontrée il y a 15 ans, une femme d'une grande humilité, qui m'a touché, qui m'a raconté sa vie et son histoire m'a bouleversé. Je la porte en moi depuis 15 ans. Alors évidemment... En 15 ans, ma mémoire en a un peu déformé les contours et puis se sont greffées à ce sujet des anecdotes vues, lues, entendues, enfin vécues. Mais aussi par une phrase, d'abord parce que j'avais donné des cours dans une ZEP à Argenteuil quand j'étais au conservatoire et j'avais été très marqué par des gamins qui avaient qui n'avaient pas les mots, qui avaient très peu de vocabulaire, et la frustration qu'ils avaient de ne pas pouvoir s'exprimer, et l'autocensure en se disant « Non, mais de toute façon, j'ai pas les mots, donc je me tais », et la violence que ça pouvait engendrer chez eux et chez les autres. Ça, ça m'avait marqué. Et puis aussi, il y a une phrase dans un livre de Tanizaki qui s'appelle « L'éloge de l'ombre », où il dit « L'or n'est jamais plus beau que dans le noir ». Et je voulais raconter ça. Je voulais, donc l'or, c'est Adeline Dermy, parce qu'elle est en effet extraordinaire. Elle a une palette incroyable.
Ah oui, là.
Et elle travaille le minuscule que le cinéma permet. Et donc j'ai créé un peu l'ombre dans ce premier tiers un peu violent, qui certains le nomment caricatural. En fait, quand on lit les biographies de certains réalisateurs et certains producteurs des années 70, on est très loin de la caricature. Et puis j'en ai profité pour raconter un peu cette évolution. C'est une chronique. Cette évolution.
C'est lumineux parce qu'à un moment, on peut raconter, cette jeune fille est provinciale, elle n'a pas les mots, elle vivait cloîtrée
dans une famille qui recevait jamais personne, qui vivait les volets clos.
Voilà. Elle va faire du cinéma, elle a quelque chose de naturel qui plaît au réalisateur qui a l'air d'être un Allemand un peu. Avec des méthodes un peu.
Bah, mais il est sexy, il a tout pouvoir. Oui. Il a un peu d'actualité d'ailleurs.
C'est des années 70.
Oui,
c'est
ça. Et il l'a fait pleurer, mais vraiment.
Ah, il la lamine.
Ouais. Bon, il y a une scène merveilleusement drôle quand elle essaye d'apprendre l'anglais cockney avec un professeur.
Qui est un acteur que j'ai connu il y a 20 ans, qui s'appelle Callin Jones, qui est vraiment formidable.
Elle n'arrive pas.
Non, mais c'est qu'il essaye de lui apprendre à lui faire Hello, what do you want? 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 Elle n'y arrive pas.
Et donc, elle se fait en plus.
Elle se fait laminer.
Mais vraiment. Et puis.
Heureusement. Et puis,
alors, elle sombre vraiment. Elle
sombre dans l'alcoolisme, notamment, parce que je voulais parler de l'addiction. Et puis, heureusement, elle est sauvée d'abord par Xavier Beauvois, qui est un autre réalisateur.
Oui.
Et puis ensuite par Vanessa Paradis, qui joue une grande actrice qui s'appelle Jeanne.
On pense forcément Jeanne à Polanski, Jeanne Moreau.
Pourquoi pas? Il se trouve que Jeanne Moreau, c'est tout à fait exact, parce que ce passage du film a été inspiré par une anecdote qu'on m'a rapportée de Jeanne Moreau sur le tournage d'un film de Michel Drache, où elle a exactement fait ça. Elle a sauvé une actrice en disant « Excusez-moi, mais je voudrais avoir un moment seul avec mademoiselle ». Et elle l'a pris à part et elle lui a dit exactement le texte qu'il y a dans le film. En disant, mais vous savez,
ça, c'est formidable, ça
j'ai autant besoin de vous que vous de moi. En ce moment, je vis un chagrin d'amour. La dernière fois, c'était il y a 20 ans. J'avais écrit à Bergman. Il ne m'a jamais répondu. À qui est-ce qu'on va écrire maintenant? Et voilà, et ça vient d'elle, ouais.
Ah oui, mais c'est on sent quand même la rémission, quoi. C'est-à-dire que c'est très lumineux. Il y a un côté... Chrétien,
je sais pas, surtout c'est une humanité, c'est ce qui me touche le plus, la bienveillance, la reconnaissance de celui qui est fragile. Après, je voulais aussi raconter comment une contingence, là j'ai pris le cinéma et le théâtre parce que c'est le métier que je connais le mieux et que j'aime bien parler de l'acteur, ça me permettait d'exacerber mon propos parce que c'est un des rares métiers où on vous dit, faut parler maintenant. Pas action. Donc ça exacerbait mon métier. C'est une humanité très, en effet, une bienveillance qui est nécessaire dans des moments où la contingence devient plus importante qu'un être. Et là, c'est le cas. C'est-à-dire tout d'un coup, le temps presse, le machin, la pression du temps, les petites humiliations, des petits postes, des petits pouvoirs. Je voulais traiter aussi ça parce qu'on le rencontre dans n'importe quel métier, je crois.
Absolument. Les petits chefs comme ça qui vont.
Le petit pouvoir. Tu peux apporter un café, s'il te plaît, mademoiselle? Ouais, enfin, je suis pas serveuse, mais. ce genre de petits trucs. Ouais.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Et nous retrouvons Guillaume Gallienne, pour le film Marilyn qui sort le 15 novembre. Et c'est l'heure de retrouver Cyprien Sini.
À la une, le web de Cyprien Sini.
Et ce matin, Cyprien, direction l'Italie.
L'Italie où se jouait hier à Trévise la première Coupe du Monde de tiramisu. Et le tiramisu qui signifie littéralement « remonte-moi le moral », c'est dérivé de « tirare su » en italien. Le tiramisu, donc, c'est bien plus qu'un simple gâteau. Oui, entre les habitants de la Vénétie, la région de Venise, et ceux de la région voisine du Frioul, où il y a la ville de Trieste notamment, c'est même carrément la guerre du tiramisu. Car les deux régions se disputent la paternité du fameux gâteau au mascarpone. Autant vous dire dire qu'hier, au moment où les 700 concurrents, c'était quand même 700, se sont affrontés pour savoir qui ferait le meilleur tiramisu, c'était ultra tendu entre les deux favoris, le candidat du Frioul et donc celui de la Vénétie. D'autant qu'en août dernier, le tiramisu a été inscrit comme spécialité du Frioul, ce qui a poussé les autorités vénitiennes à en appeler carrément au ministre de l'Agriculture, qui n'a pas encore tranché l'épineux dossier. Bref, vous imaginez le contexte. Et hier, c'est donc le candidat issu de la Vénétie qui s'est imposé, oui, le dénommé Andrea Ciccolella, qui dans le civil est ouvrier dans une usine de lunettes, c'est assez improbable. C'est donc en Vénétie qu'on fait le meilleur tiramisu du monde. Après, pour info, selon les historiens de la gastronomie, le dessert a en fait été créé à Trévise, en Vénétie, donc dans les années 50. Il était alors offert par les prostituées à leurs clients affamés, avant ça. Le rapport, pour leur donner de l'énergie. Ouais,
c'était le tire-moi là-dessus, ça s'appelait à l'époque.
Ouais, voilà, ça peut...
Une fois que vous avez dégusté un tiramisu, vous n'avez plus envie de rien faire. Vous avez envie de vous asseoir.
Ah oui, il faut aller dormir.
Ça dépend de la densité.
Pas les Italiens.
Ils ont une température. Alors, après le tiramisu, un petit bonbon.
Oui, mais pas n'importe lequel, surtout pas à la réglisse. Oui, car l'agence de santé américaine, la Food and Drug Administration, met en garde contre la consommation excessive du bonbon noir. Ils ont découvert que l'édulcorant qui permettait de fabriquer les bonbons à la réglisse, l'acide glycyrrhizique, c'est le code E958 quand vous lisez ce qu'il y a écrit sur l'emballage. Bref, cet édulcorant peut faire chuter le taux de potassium dans le corps et entraîner une arythmie cardiaque et une forte tension artérielle, rien que ça. Alors rassurez-vous, le risque n'est pas le même pour tout le monde. Pour les enfants, pas de problème, ils peuvent manger autant de réglisse qu'ils veulent. Le problème, c'est que généralement, les enfants n'aiment pas trop ça. En revanche, pour les plus de 40 ans, danger, c'est maximum 52 grammes de réglisse par jour, soit grosso modo 3 bonbons par jour. Et je vous rappelle que dans le tiramisu, au moins, il n'y a pas de réglisse.
C'est quoi, 3 rouleaux, c'est ça, à peu près, de réglisse?
Ça dépend de la taille du bonbon, mais grosso modo, ouais.
Allez, on termine par les légumes.
Oui, alors ça se passe en Allemagne, dans la ville de Bretten, près de Karlsruhe. Vendredi dernier, un homme de 81 ans se baladait dans son jardin. Au loin, il aperçoit une longue forme noire, très épaisse, jonchant le sol. Pour lui, ça ne fait aucun doute. Il s'agit d'une bombe de la Deuxième Guerre mondiale. On en trouve encore souvent dans la région de l'Allemagne, dans cette région d'Allemagne, pardon. Donc il entend souvent parler de ça à la télé, à la radio. Alors l'homme ne prend pas de risque, il appelle la police. Les forces de l'ordre arrivent, mettent en place un périmètre de sécurité, pénètrent à pas de velours dans le jardin et en y regardant de plus près, il découvre en fait une grosse courgette, oui, mais vraiment très grosse. 40 cm de long pour 15 kg. Même les policiers ont précisé qu'effectivement, la courgette ressemblait bien à une bombe. D'après les conclusions de l'enquête, elle aurait été jetée par un passant au-dessus de la haie du jardin. En revanche, on ne sait pas si le monsieur a décidé ensuite de cuisiner la courgette ou de la jeter.
Mais c'est une courgette de Tchernobyl.
Énorme. Et il y a la photo, elle est toute noire et tout, c'est impressionnant.
C'est impressionnant. Merci beaucoup, Cyprien Signy. Eh bien, je ne peux pas faire de transition entre la courgette et le film.
Oui, Marie... non, c'est vrai, je n'ai pas de courgette, je suis désolé.
Désolé.
Non, non, bah, c'est un film, on va trouver Guillaume Gallienne dans un instant. Continue à parler de Marilyn qui sort le 15 novembre sur nos écrans. Et puis, ça va être le vrai faux de l'invité.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
Et nous retrouvons Guillaume Gallienne en direct et en public sur RTL pour le film Marilyn qui sort le 15 novembre dans toutes les salles. C'est le moment, le vrai faux de l'invité.
Le vrai faux de l'invité.
Je vais leur donner des informations sur votre vie. Oui. Ils vont essayer de trouver si c'est vrai ou si c'est faux, puis après vous commentez.
D'accord.
Guillaume est un garçon plutôt avenant. Il est très bien élevé, curieux des autres. Mais il a un défaut dont il ne parvient pas à se guérir. La colère. Il en pique quelques-unes régulièrement, régulier. Et ce sont souvent des colères homériques.
Je vois que ça l'énerve déjà ce que vous dites, donc je dirais vrai.
C'est marrant, j'aurais pas cru moi.
Si. Mais de moins en moins.
Vous vous calmez avec les années?
Ouais, ma femme m'a bien calmé aussi. Ouais. Ouais, mais c'est vrai.
Patrice.
Alors, Guillaume Gallienne avait l'idée d'écrire un scénario qui racontait l'histoire d'un inconnu, presque inconnu, qui devient président de la République, mais c'est arrivé à quelqu'un, donc il a arrangé le scénario.
Parler de François Hollande.
C'est vrai.
Oui, ça a l'air crédible.
Oui, c'est vrai, ouais.
Non.
Pas du tout.
Pas du tout.
On est loin vraiment ou...
Ah oui, vraiment. Oui,
c'est une invention.
Non, c'est une invention.
En général, Carbo, je n'invente rien.
Eh bien là...
Il n'a pas assez d'imagination. Alors, lors du tournage, vous vous souvenez, Cézanne et moi, dans lequel ils jouaient aux côtés de Guillaume Canet, les deux Guillaume, l'un Zola, l'autre Cézanne. Les comédiens étaient censés manger de la langouste. Et comme il a fallu faire plusieurs prises, ils ont dû manger beaucoup de langouste.
Quelle
Or,
affaire.
Guillaume... est allergique à la langouste. Et il a failli abandonner le tournage.
À cause de ça.
Non, c'est faux.
Non, c'est faux, ça sort d'esprit malade d'un bout de là.
Non, c'est, en effet, c'est faux, mais j'ai énormément mangé de langoustes. Coup de peau, je ne suis pas allergique. Mais alors, Guillaume Canet m'a dit à un moment, il me dit, mais t'es sûr que... Parce qu'en répétition, déjà, moi, en répétition, j'ai besoin de le faire. Il me dit, mais là, fais gaffe, parce que si tu en bouffes autant, là, tu sais qu'on va y passer la journée. Et ben, j'ai passé la journée
à manger la langouste.
Ouais.
Ça va,
sans
hein.
problème.
Sur les ch'tis, ça aurait été du maroilles.
Non, mais je me suis senti moins bien après, mais sur le moment.
Sur le moment, ça.
Ouais, oui. Pris par le jeu.
Ah, il y avait du budget hein, dans le film de Daniel Thompson.
C'est les mecs qui appelaient les malins.
Comme quoi, c'est pas nous qui avons tout pris.
Oui, exactement. Non, ouais.
Les types, ils appelaient.
Le budget langouste.
Ils appuyaient la criée toute la journée.
Alors, Guillaume Gallienne, vous savez, parle beaucoup, très bien des langues étrangères. Il peut prendre beaucoup d'accent, l'accent chinois, l'accent espagnol. En revanche, si vous lui demandez l'accent, par exemple, de Marseille, l'accent français, il a beaucoup plus de mal.
Ouais, je pense que c'est vrai.
Exact. Oui, oui, je ne sais pas pourquoi. Cela dit, pour Cézanne, j'ai dû prendre l'accent aixois de l'époque, et surtout de ce milieu bourgeois, qui était aixois. Déjà influencé par le texte de Frédéric Mistral, qui déjà voulait faire pointu. Mais par exemple, l'accent pied-noir, je ne sais pas le faire
pas.
Du tout.
Ouais,
non,
si
je
avec
suis nul.
Avec
une petite... vraiment.
Il fait très bien l'accent belge et l'accent suisse.
Ouais. Oui, mais ça, je me fais prendre mais direct. C'est-à-dire que j'arrive à la gare midi, mais je prends l'accent de Bruxelles. Et j'arrive à Lausanne, mais tout de suite, quoi. On ne sait pas si c'est vaudois ou genevois, mais...
Ça vient plein d'accent.
Hein. Oui,
c'est impressionnant.
Guillaume a une phobie du cheval. Il va pourtant écrire dans une maison de la région parisienne et dans le manège à chevaux de cette maison, alors qu'il a peur des chevaux.
Et pourquoi ?
Allez, on n'est pas à une contradiction près, ça pourrait être vrai ?
Mais si c'est vrai, on saura pourquoi.
Oui, je sais pas, une pulsion olfactive. Non, pas du tout. Je suis en effet phobique des chevaux, mais oui, je ne vais pas écrire dans un manège. Le mazo total.
Pourquoi ça vient d'où, cette phobie des chevaux?
Je ne sais pas. Je crois que tout ce qui est plus grand que moi me fait peur.
Une mauvaise rencontre. Une mauvaise rencontre.
C'est Patrice.
Ah bon, tu voulais alors.
Non,
c'est faux.
Déjà le début.
Il n'aime porter ni de chaussettes ni de talons, les sous-vêtements. Et quand il en porte, ils sont souvent troués. Quand tu portes des chaussettes, en tout cas.
Oui.
On va vérifier tout de suite.
Je n'arrive pas à voir.
C'est quelqu'un qui le dit, en tout cas. Quelqu'un qui le connaît bien qui le dit.
Non, mais n'importe quoi, mais
qu'il connaît très bien alors.
Il va se mettre en caleçon.
Il fait un trou dans le slip.
Il paraît que c'est Julien Doré qui dit ça, que vous avez des
Mais il l'a dit en rigolant. Oui, on a tourné ensemble, mais c'est vrai. Mais Julien, il est très très drôle, lui.
Mais vous avez tourné quoi pour qu'il connaisse vos souvenirs?
On a tourné ensemble, nous allons vivre une très très grande histoire d'amour de Pascal Thomas avec Marina Hans, et dans lequel j'ai joué un sourd muet.
Ça vous a pas manqué de ne pas jouer dans Marilyn?
Mais non, mais il n'y avait pas de rôle pour moi. Parce que le premier réalisateur, je voulais qu'il soit sexy, donc voilà, c'est fait. Et le deuxième, je voulais...
Il est terriblement sexy.
Ah oh, bah, quand même, ça...
Non, il a de la personnalité.
Il a quelque chose. Il a un peu plus que ça. Non, mais c'est... on sent qu'il peut faire bobo, quoi.
Oui.
Alors que...
pas pour jouer bohème, il peut faire mal.
Ouais, il peut faire... Voilà. Alors que moi, on se dit, t'es gentil, je t'en colle une et tu vas te calmer. Et le deuxième, je voulais... Je voulais que ce soit Xavier Beauvois parce que j'ai écrit cette phrase que j'ai piquée à Trintignant d'ailleurs, où à un moment dans une interview on a dit à Trintignant: mais Trintignant, vous avez tourné avec les plus grands, vous avez les plus belles femmes du monde dans vos bras et cependant vous avez toujours l'air un peu triste. Et Trintignant éclate de rire et dit: triste? Ah non, je suis pas triste, je suis désespéré. Et en écrivant cette phrase, je me dis: ah, ça c'est Beauvois. Et il est magnifique, il a une humanité dingue, Xavier Beauvois. Et donc voilà. Et puis le troisième, étant donné qu'il est un peu le sauveur, je me suis dit: genre la mise en abîme, c'est moi qui la sauve. Ouais, non, là c'est pas possible. Voilà. Et j'ai demandé à Eric Ruff, qui est bien meilleur que moi.
Mais ce que je trouve formidable, c'est que en fait, vous lisez tout. C'est-à-dire que vous lisez toutes les interviews de tout le monde, de tous les comédiens, vous êtes au courant de tout.
Oui, non, il ne faut pas pousser, mais j'aime bien... Il y a des gens qui me touchent, Trintignant, ils me touchent énormément. Je m'informe quand même.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Et nous sommes toujours avec Guillaume Gallienne et pour le film Marilyn. Alors c'est vrai qu'on boit plus qu'on ne mange dans le film.
Oui. Elle a un problème avec l'addiction, elle a un problème.
Qui se résout. Enfin bon, sur le... elle a une bonne descente.
Non, mais c'était pour parler de la bienveillance aussi. C'est vrai que les addicts, même quand on leur fait du bien, ils sont tellement peu habitués à recevoir du bien qu'ils ont qu'ils ont le réflexe d'aller vers le terrain connu qui est de se prendre le mur. Et donc, faut réitérer, faut faire preuve d'une grande persévérance.
Faut tenir la main. Alors, nous avons au téléphone Frédéric Roy, pâtissier boulanger. Il a écrit au Premier ministre pour se plaindre de l'invasion massive des viennoiseries industrielles.
Vous avez raison.
Bah oui, bonjour, bonjour Frédéric.
Bonjour Stéphane.
Bonjour, vous êtes boulanger-pâtissier à Nice, n'est-ce pas ? Et vous avez écrit à Édouard Philippe pour demander la création d'un label tradition pour les croissants qui sont, eux, fabriqués par des artisans. Vous dites qu'on est envahi par les croissants industriels, même dans les boulangeries ?
Disons qu'on trouve dans certains cas, oui, des artisans qui vendent des produits industriels, et c'est ça le vrai problème, parce que je dirais à la limite... Quand on va dans une grande surface, qu'on achète un croissant industriel,
on le sait
et on le paye le prix qui vaut.
Oui.
Là où il y a un simulacre de mauvais goût, on va dire, c'est lorsqu'on voit dans certaines boulangeries qu'on pense être des artisans et que là, on nous vend des viennoiseries industrielles. Là, c'est un vrai problème, car le client ne le sait pas.
Ah bon, mais ce n'est pas obligatoire de le noter. Je croyais que c'était obligatoire de mettre artisan boulanger et de... fait maison.
Non, pas du tout. Au jour d'aujourd'hui, quand on est une enseigne boulangerie-pâtisserie, la seule obligation qu'on a, c'est d'y fabriquer le pain sur place et de le cuire sur place. C'est la seule obligation que l'on a. Pour la viennoiserie, la pâtisserie ou tout autre produit, il n'y a absolument aucune obligation.
Ah bon, et mais c'est
comment,
pour ça que...
Comment on se repère, nous, alors ?
Comment
vous faites ? La solution, elle est simple. Vous soutenez ma démarche, qui est le fait de mettre en avant l'artisan à travers des labels, parce que ma demande, elle est simple, un label tradition copié sur la baguette tradition pour le croissant.
Un croissant tradition. Ça va s'appeler le croissant tradition.
Il va être coûté 10 centimes de plus.
Mais voilà, à peu près 10 centimes.
Franchement,
de plus,
vous savez, parfois, parce que j'ai plusieurs boulons, à 0,80, 10, on en trouve, pas à Paris évidemment, parce qu'à Paris...
C'est 1,10 à Paris.
C'est 1,10 maintenant à Paris, mais en région, on en trouve à 90 centimes, et parfois... Parfois ils sont bons, parfois ils ne sont pas.
On sait pas,
Est-ce qu'il faut se méfier des grandes marques de boulangerie ? Les franchises qu'on trouve un peu partout ou pas ?
Ah ben oui, ça c'est industriel, Eric.
Mais non, pas forcément. Alors justement, c'est pour
ça. Comment le savoir ?
Moi je sais que j'ai un monsieur qui a plusieurs boulangeries dans Paris, voire dans le monde.
Il a un prénom.
Il s'appelle Eric. Et elles sont très bons, ces croissants. Et je suis sûr qu'ils ne sont pas du tout... Enfin, je sais pas.
On parlait d'Eric Kaiser.
Oui, c'est ça. Oui, mais il ne voulait pas le dire. C'est fait.
Il y a un monsieur qui s'appelle Paul, alors.
Monsieur Paul, peut-être que lui, il fait plus industriel.
On sait qu'il conduit
mal. Je ne sais pas, je ne sais rien. Est-ce qu'il nous envoie dans le mur ?
Il conduit plus.
Alors, comment ? En fait, il faut soutenir votre démarche. Donc, écrire « croissant de tradition ».
Non, il faut déjà obtenir le label de par l'État, déjà pour commencer, parce que ça va être un label officiel.
Et qui va décider alors ? C'est le ministre de l'Économie ou le ministre de l'Agriculture ou...
Moi, j'ai écrit un courrier au Premier ministre, puisqu'il est le chef du gouvernement.
Bien sûr.
Il a transmis ma demande à Bruno Le Maire.
Ah, voilà.
Alors, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi.
Non, c'est
peu importe. Mais
parallèlement, qu'il était à côté de lui.
Entre-temps, j'ai eu le soutien de certaines personnalités politiques, notamment le député de ma circonscription, Éric Ciotti, qui
le gouvernement ne fait rien.
Pour rouler dans la farine.
Eh bien, j'espère que tout ça va aboutir, parce que nous, ce qui compte pour nous, c'est qu'on mange des bons croissants. En tout cas, Frédéric Roy, merci. Et puis, j'espère que vous obtiendrez gain de cause et qu'on aura des vrais croissants de qualité. À propos de croissants de qualité, je veux pas l'industriel, c'est Régis Maillot qui prépare. Là, c'est pas de l'industriel.
C'est VDB, la vie du beurre.
Très bien. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Et nous sommes toujours avec Guillaume Gallienne. Voici que s'avance. Enfin, en même temps, il est près de son micro. Régis Maillot.
VDB, la vie de Berne.
Régis Maillot.
Pour ce long week-end de la Toussaint, Stéphane Bern, monsieur patrimoine, qui est un homme prévoyant, en a profité pour faire quelques emplettes.
Qu'est-ce que c'est que cette voiture, patron ?
C'est un corbillard. Comme à la Toussaint, les gens roulent à tomber au vert, j'ai acheté un corbillard. En cas de pépin, on gagnera du temps. Allez, c'est pas le tout, j'ai des rendez-vous, allons directement à la boutique.
Qu'est-ce que vous faites ?
Je prends de l'avant, je feuillette le catalogue des pompes funèbres. Faites voir, là, dites-moi, c'est pas donné.
Ah bon ? C'est combien la crémation ?
6 000 euros.
Ah oui, quand même, ça donne envie d'arrêter de fumer. Hein. Sinon, il y a moins cher, la méthode Jeanne d'Arc. C'est-à-dire, c'est du plein air. En tout cas, ça fait cher le bois de chauffe, hein. Et l'inhumation, c'est combien? Bah là, on est dans les mêmes tarifs, sans compter la location du corbillard. C'est obligatoire, le corbillard? Évidemment, on va pas utiliser le coffre de la voiture. Faut également ajouter des porteurs. Ça aussi, c'est obligatoire. Non, mais c'est recommandé. Le gars, il va pas y aller tout seul à pied. C'est vrai. Tu sais, Maillot, il devrait faire un modèle avec roulettes, comme les valises. Il n'y a plus qu'à tirer. Je suis certain que ça ferait un carton. Ah, ma préférée, voilà, la page des cercueils. Fais voir. Oh, ben dis donc, il se mouche pas du coude, hein. 10 000 euros pour un garde-manger. Ah, mais là, on est sur du très haut de gamme, hein. C'est de la cajou, tout de même. Ben alors, ils se sont crus chez Roche-Beaubois. Je veux dire, franchement, Maillot, tu achètes 4 planches de médium chez le roi Merlin. À la découpe, une bonne scie sauteuse, des clous de douze, une colle à bois chinoise, de l'huile de coude, et pour 40 euros, tu as quelque chose de presque aussi bien, avec en suge la satisfaction du travail fait main.
Ouais. Je rajouterai un peu de velours quand même à l'intérieur. Faut être confortable.
Mais regardez, il dispose de toute une gamme de prix. Fais voir. Ah oui. Oh, en entrée de gamme, on regarde, on débute dans du 500 euros. Je vous cache pas que c'est un modèle de blase. Hein. Ça, c'est fait avec, dans du bois de cagette. Regarde, il y a encore des épluchures à l'intérieur. Ça, c'est quoi? C'est le modèle Tupperware, en plastique. Ça conserve mieux la viande froide.
Non.
Et ça rassure les sceptiques.
Oui, mais c'est pas biodégradable.
Tu sais quoi? On devrait négocier les tarifs, Maillot. Ben, les tarifs de quoi? Ben, des cercueils, comme au bistrot. Deux tournées, la troisième est gratuite. Ah, mais qu'est-ce qu'on fait, des cercueils en rab? Et on stocke, pardi. Ben, ça prend de la place, ces armoires. Il suffit d'être organisé. Tu sais, j'ai un ami dont les parents sont très âgés. Il a remplacé le lit conjugal de ses parents par deux cercueils en chêne massif. Ça lui a changé la vie. Le jour du décès, tu gagnes du temps et de l'argent. Non seulement la suite parentale se transforme en chambre mortuaire, mais le corbillard fait office de camion de déménagement. Ah, c'est pas idiot. Hein. Ils en sont contents. Ils ne changeraient pour rien au monde. Le sapin pour le dos, c'est formidable. Je veux dire, quand tu passes d'un sommier à ressort à un sommier à latte, ça te change la vie. Je suis d'accord pour le dos, mais question place pour dormir, on n'est pas sur du king size. Au contraire, non seulement chacun gagne en indépendance de couchage, mais en plus, grâce au rebord, tu évites les chutes. Ah, c'est pas idiot, c'est pas idiot. Si l'autre ronfle un peu fort, tu refermes le couvercle. Bien sûr. Regarde ce modèle insonorisé jusqu'à 82 décibels, ils appellent ça la boîte de nuit. Tu peux toujours frapper à la porte, personne ne viendra t'ouvrir. En même temps, dans un cimetière, les voisins de palier viennent rarement se plaindre. C'est quoi ce truc, là? C'est une liseuse, Maillot. Une liseuse dans un cercueil? Pourquoi faire? Au cas où. Au cas où quoi? Au cas où la personne se réveille. Ça arrive, mais très souvent, Maillot. Mais on dispose de peu de témoignages. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Ah non, non, patron, il y a encore les frais annexes. Les quoi? Bah, les frais annexes. Les soins de conservation, 700 euros. Ils incluent la toilette et la présentation du corps. La toilette, tu crois que c'est vraiment nécessaire? Je vous assure, l'été, c'est mieux. Sinon, c'est pas la famille qui suit le corbillard, mais les mouches. Hein. Allez, va pour la toilette. Plus un forfait de 200 euros pour habillage, coiffage, maquillage. Et pourquoi pas une manucure? C'est un enterrement, pas un mariage. L'objectif, c'est de rentrer à la maison, faire un gros dodo, pas se faire sauter en fin de soirée par le frère de la mariée dans la buanderie du château. Ça suffit de se faire escroquer. Allez, on rentre. Oh. Tu sais, Maillot, ça m'a refroidi cette visite au cimetière. Qu'est-ce que je vous sers? Bah, deux bières fraîches, à la bonne heure.
Régis Maillot, sale gosse. Merci beaucoup, Régis. On va retrouver Guillaume Gallienne en direct et en public sur RTL dans un court instant pour la suite d'À la bonne heure. Et puis, on va retrouver Éric Dussard qui est retourné hier à l'école au tableau. Oui. Ça vous a fait du bien de temps en temps.
Avec Anne Hidalgo, notamment.
Oui, très bien. Allez, à tout de suite.
Votre après-midi sur RTL. 14h, la curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Chaque jour, on répond aux questions qu'on se pose tous et à celles qu'on ne se pose pas.
Autour d'intervenants passionnés et donc passionnants.
15h, on est fait pour s'entendre. Flavie Flamand.
Des thèmes qui nous concernent tous, de l'interactivité, mais des rires aussi.
À 16h, retrouvez Laurent Ruquier et les grosses têtes.
Vous faire rire en répondant à des questions culturelles ou des questions sur l'actualité, c'est le plaisir quotidien des grosses têtes sur RTL.
Découverte, partage, humour, bel après-midi sur RTL.
À la bonne heure, Éric Dussard met la télé sur écoute.
Alors Éric, on commence avec votre amie Anne Hidalgo.
Oui, car la maire de Paris était l'une des invitées de l'émission Au tableau hier soir sur C8. Elle a réussi à se garer donc devant l'école. Vous savez, c'est ce programme où des personnalités se rendent dans une école pour répondre à des questions d'enfants.
Encore qu'avec Anne Hidalgo, j'ai eu comme un doute, ça ressemblait plus à des questions que leur avaient soufflées leurs parents.
Vous avez décidé toute seule qu'il n'y ait plus de voiture dans Paris. Vous avez demandé leur avis aux Parisiens.
Ah, Raphaël.
Même pour des petites distances, dans Paris, ça prend des heures. Je veux pas vous blesser, mais mes parents, eux, ils vous aiment pas trop.
C'est vrai.
Vous avez conscience qu'il y a beaucoup de Parisiens comme eux, ça vous fait quoi?
Écoute, franchement, pour une petite distance à Paris, tu peux prendre le métro ou marcher à pied.
Merci maîtresse. En fait, elle était tout à fait à sa place sur l'estrade pour donner des leçons. Elle est assez forte quand même.
Oui, surtout qu'elle fait tout en voiture.
Oui, oui. Oui. Puis on marche souvent sans ses pieds. Oui.
Alors sinon, hier soir, les enfants ont aussi cuisiné le Premier ministre, Édouard Philippe, avec pour lui aussi parfois des questions vraiment toutes gentilles, toutes mignonnes.
Ça vous fait quoi que votre famille politique vous prenne comme un traître?
En fait, vous changez de parti comme vous changez de cravate.
Écoute, je change pas trop souvent de cravate.
Est-ce que vous, on se moque encore de votre taille?
Non.
De votre?
Pas trop.
Taille.
Mais en revanche, quand j'étais petit, on se moquait de mes oreilles. Parce que j'avais les oreilles décollées. Ils se moquaient beaucoup, beaucoup de mes oreilles décollées.
Alors ça, c'est injuste.
Et on se moquait vraiment de moi.
C'est vraiment trop injuste.
Ah, il y a un petit côté Calimero, t'entends, Edouard Philippe. C'était mignon, hein, mais dans l'ensemble, il s'en est très bien sorti, le Premier ministre. Il faut dire aussi qu'il a accepté de faire tout ce que les enfants lui ont demandé. Il a appelé Emmanuel Macron sur son portable pour caler un goûter à l'Elysée. Parce que ces petits monstres avaient vu Macron déjà en mars dernier. Il avait dit, si vous êtes élu, on veut venir à l'Elysée. Donc du coup, bah, ils ont demandé à Édouard Philippe de faire le service après-vente. D'ailleurs, quand il a rappelé Macron, ils sont bien. Quand il a appelé Macron, il a raccroché un peu vite d'ailleurs. Il a limite raccroché au nez, mon avis, il va se faire engueuler. Il a accepté de faire la dictée.
Oui, il a rappelé Macron.
Ouais, oui, il a rappelé. Zéro faute pour la dictée d'Édouard Philippe. Il a joué de la batterie sur une batterie pour enfants de 30 cm de hauteur. Image magnifique. Et puis, il a même accepté de leur montrer son incroyable talent pour les imitations. Car Édouard Philippe sait par exemple très bien faire Nicolas Sarkozy.
Vous pouvez l'imiter, parce qu'on sait que vous savez bien l'imiter, s'il vous plaît.
Allez, s'il vous plaît.
C'est bien parce que c'est toi. Alors, je suis Pierre-Zi, je peux l'imiter.
En fait, là, c'était Juppé avec l'accent belge. C'est quand il a super
pêche. Bouché aussi,
à la super
c'est pas
pêche.
Mal, c'est pas mal.
Je vais peut-être l'inscrire à Incroyable Talent qui revient bientôt sur M6. Côté.
Ça vaut pas, comme le disait Cyprien Sinisman, ça vaut pas Laurent Gérard, non, mais quand même. Alors, chacun son métier.
Côté audience, c'est pas une bonne note, malheureusement, pour cette émission qui a fait deux fois moins d'audience que le premier numéro diffusé en mars dernier.
Comment vous l'expliquez?
Bah, il y avait beaucoup de concurrence hier soir aussi, il faut dire, beaucoup de films. Il reste le replay.
Il n'y a pas d'élection présidentielle.
Il n'y avait pas de candidat à l'élection présidentielle. 650 000 téléspectateurs seulement, mais il reste le replay pour voir, revoir ce programme.
C'est bien. Alors, il y a une nouvelle chroniqueuse chez Laurent Ruquier le samedi soir.
Oui, alors Claire Chazal, chroniqueuse d'un soir, du moins pour l'instant, effectivement, elle a remplacé Christine Angot dans On n'est pas couché samedi soir.
Claire, j'ai eu Christine Angot au téléphone. Je lui ai dit, écoute, j'ai fait une montagne de fiches. Elle m'a dit, tu peux tout jeter, tout détruire. Vas-y, les mains dans les poches. Donc voilà.
Tiens, en plus, vous allez peut-être être très méchante ce soir, Claire.
Peut-être, peut-être.
Moi, elle m'a dit, je n'aime personne sur ce plateau avant l'émission.
C'est faux.
C'est faux.
Moi, elle m'a dit, j'aime personne, mais je vais dire du bien de tout le monde.
Ça, c'est pas très gentil.
C'est sympathique pour les invités.
Ça, c'était le cadeau de bienvenue de Yann Moix. Ouais, c'est Yann Moix, c'est la manière de se taire. Vous savez, c'est comme ça, faut pas se formaliser avec lui. Alors, en plus, c'est vrai qu'étonnamment, Claire Chazal était assez pugnace en interview. Elle a bien asticoté, par exemple, Geoffroy Didier, qui ne s'est pas déplu. Et alors, ce qui a été appréciable par rapport à Christine Angot, c'est qu'elle était agréable, d'une part, et que d'autre part, eh bien, les questions étaient plus courtes que les réponses de l'invité. Donc, c'était pas mal du tout, opération plutôt réussie pour Claire Chazal. On n'en dira pas forcément autant pour Christophe Willem. Je pense qu'en termes de promo pour son livre et son album, il rêvait mieux que cette déclaration d'amour de Yann Moix.
Il nous regarde droit dans les yeux, c'est juste qu'il va pas vous foutre un pain dans la gueule. Je vous préviens, Yann Moix.
Avec ce que je vais dire, il pourrait.
Et qu'est-ce qui vous a déplu dans ce livre, alors?
C'est cet éloge monumental à la modestie. C'est-à-dire que non seulement il est écrit que Christophe est l'un des plus grands artistes français que nous ayons, sauf qu'en plus, les passages que je viens de dire sont écrits en gras dans le livre, comme si voilà, il fallait pas rater les passages où le génie pouvait passer inaperçu. Alors le génie passe inaperçu quand on écoute l'album, mais vous avez quand même... Mais quoi ?
Alors Christophe Willem a eu la bonne réaction. En fait, il s'est marré. Plus Yann Moix l'attaquait, plus il rigolait. Et au final, Yann Moix a fini par lui dire qu'il aimait beaucoup l'une des chansons de son album. Donc vous voyez, quand le pitbull attaque, il ne faut pas bouger. Et ça finit,
il
finit toujours par se calmer. Bon, on va rester dans la bonne humeur avec un moment de télé. Cyprien Sini, ici présent avec vous, vendredi soir sur la chaîne CNews.
C'était bien.
C'était dans l'émission 20h Foot. Au moment de cette légère altercation donc, entre notre camarade Pascal Praud et le rappeur Ross Ismail. s'est passé quoi? C'était quoi le point de départ?
En fait, l'histoire, c'est Patrice Evra. Je ne sais pas si vous avez suivi, c'est le joueur de l'OM qui a mis un coup de pied à un supporter qui est descendu sur la pelouse. Et donc, autour de la table, il y avait Rost, qui lui avait envie de, qui est un rappeur qui avait envie de défendre Patrice Evra. Et il y avait Pascal Pro, qui était censé animer la mission, donc pas avoir d'avis, mais qui en avait un quand même.
Et ça a donné une ambiance très, très relax en plateau.
Quand toute votre vie, vous subissez des insultes racistes.
Arrêtez, de mettre les insultes racistes à tout bout de champ sur le débat. Ça suffit.
Alors,
c'est intolérable. Okay. Bon, non, c'est intolérable. Mais pourquoi vous partez?
Alors, laissez-moi terminer mon truc.
Mais ça suffit. Mais ça va. Mais ça va de tout ramener à des insultes racistes.
Quand toute votre vie, vous avez subi ça.
Mais restez, Rost. Mais Rost, reste. Ah non, parce que là... Non, Rost, tu restes.
Ce que j'ai préféré dans cette séquence, c'était Cyprien Signy, qui lui était d'un calme olympien. Il les regardait mais comme des extraterrestres.
Bah, disons que c'était un peu hors de propos. Bon, ils se sont fait un bisou à la fin quand même, hein, ça s'est arrangé.
Il n'est pas parti très loin.
Bien.
Et on termine, Eric, avec un autre roi de la zénitude.
Bah, c'est notre ami Nikos Aliagas qui présentait les Energy Music Awards samedi soir sur TF1. Évidemment, comme tous les ans, il y a eu un problème technique. Bon, là, c'était la faute de l'artiste. En l'occurrence, c'est Amir qui a laissé tomber son oreillette dans une grille au sol. Alors qu'il devait chanter son tube, on dirait.
Que dit Khan ? L'artiste chante ou pas ?
Allez, c'est parti.
Hop, il a perdu un bout d'oreillette. Et hop, en plus, elle est tombée dans le... à l'intérieur du grillage. Voilà, ça arrive, on est en direct, mais c'est extraordinaire. J'adore ces moments. C'est pas grave, je vais te donner les miennes. Tu l'as ? T'as perdu un bout d'oreille. Amir, on dirait...
Eh ben on dirait bien qu'on a un problème. Mais comme d'habitude, Nico s'est assuré. Anna 380 pourrait s'écraser sur le plateau. Il continuera.
C'est
une machine de guerre.
Les grands professionnels. Et très fort. Oui. Merci beaucoup, Eric Dussard. À demain.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Alors, Guillaume Gallienne est notre invité en direct et en public sur RTL.
Merci.
Et... vous êtes orthodoxe, ce que les gens ne savent pas forcément.
Oui, oui.
Et Saint Jean Chrysostome, l'un des fondateurs de l'Église grecque, disait « Le repentir est une médication qui détruit le péché ». Je vais donc vous confesser.
Oui, s'il vous plaît.
Il fallait une justification.
C'est plus en plus documenté. Hein.
Oui. Même s'ils viennent me dire hors micro que dans l'Église orthodoxe, on n'énumère pas les péchés.
Ah.
Mon fils, tu pèches plus par la pensée, la parole ou l'action ?
Les trois.
Ah oui, quand même.
Bon, en général, non, la parole, parce que je n'ai pas le temps de le penser, que je le dis. Comme
Et vous n'avez pas le temps non plus avec tout ce que vous faites pour agir. Le faire.
Non, malheureusement.
C'est ça. Est-ce que vous cédez à la gourmandise?
Ah oui, tout le temps.
C'est pas un peu chaud.
Tout le temps.
Ouais. À la paresse?
Non. Rarement, mais de temps en temps.
Il est où votre écho pervers ce matin?
Ah oui, il n'y a pas d'écho. À l'envie?
Non, pas du
non,
tout.
Pas du
alors,
tout.
Pas du tout.
L'orgueil, peut-être?
J'imagine, pour moi, c'est du panache, mais on n'a qu'à dire que c'est...
Non, mais un acteur doit avoir un minimum d'orgueil, non?
D'ego, oui. D'orgueil, d'ego. Non, pas forcément. L'orgueil, c'est la peur, quand même. Je n'ai pas tellement peur.
La colère?
Moins. Oui. Ah oui, si, mais la colère, oui.
Mais qu'est-ce qui vous met en colère?
Oula, la liste est longue.
Ah oui.
Les putaclics, les gens obsédés par les bad buzz, les gens qui se prennent pour des procureurs. Oui, il y a beaucoup de choses qui me mettent en colère, vraiment.
Il a dû être énervé pendant le zapping. Hein.
Ah ben non, je ne regarde pas, non, je deviens dingue. Oui,
mais au
non,
fond, vraiment. La vérité, parce que je sais qu'en ce moment, vous faites la tournée. C'est bon pour l'écho, tant pis.
De toute façon, il n'y avait pas d'écho.
Le prêtre, je me suis défroqué. Alors,
enfin. Remettez ça.
Mais c'est vrai, vous allez vous faites une tournée province, comme on dit, c'est-à-dire vous allez de région en région pour montrer le film. Qu'est-ce qui vous touche le plus? C'est plus intéressant que les critiques?
Ah non, mais carrément, là, les gens, oui, non, mais là, c'est très, très touchant, les retours que j'ai du public. Parce que c'est vrai qu'au cinéma, quand on réalise un film, le seul moyen de rencontrer le public, c'est de faire ses tournées. Là, ce soir, je suis à Lille, l'année prochaine à Lyon, demain à Boulogne. Enfin, mais là, c'est très agréable parce que je reçois... Il y a des gens qui me posent même pas de questions. En fait, ils me parlent d'eux. Ils me disent « Mais moi, dans cette scène, j'ai été bouleversé. Ça m'a rappelé ça. » Ça m'a... Et c'est très, très beau. Oui, vraiment. Ça, c'est vraiment touchant. Et ça vole un peu plus haut que la plupart des critiques de certains réseaux, de certains trucs où c'est vraiment que du bad buzz pour faire du bad
attendu,
buzz. Ah oui, puis c'est vraiment, tiens, celui-là, on va se le
payer. On va se le faire, oui.
Et
ça, oui, quand on a eu 5 Césars, forcément, on attire la lumière.
Et puis il y en a qui sont vraiment très incultes. Donc ça agace un peu. Oui. On a envie de dire
parce qu'il y a beaucoup de références dans le film. Il faudrait réfléchir un peu. Bref. On va se retrouver dans un instant. Ça va être l'heure du quiz musical de Patrice Carmouze.
Vous écoutez RTL.
Le test à l'aveugle de Patrice Carmouze.
Alors Patrice, je rappelle que nous jouons pour faire gagner un séjour dans un des hôtels relais du silence. C'est notamment celui du domaine des Tomeaux près d'Amboise, avec 3 jours, 2 nuits, petit déjeuner et dîner pour deux. Alors, Guillaume va jouer pour Gilles et vous pour Martine. Il suffit de reconnaître qui chante et c'est deux chansons. Donc sur Marilyn, Marie-Lou, Marie-Hélène. Et on commence par vous, Guillaume. Alors ça, c'est évident de prendre cette chanson.
Ah oui. C'était dur quand même.
Bah oui,
ils ont aussi, mais c'est un point offert.
Alors ça, c'est pour Stéphane, tiens.
Quand je vois Marilyn faire le houli-gouli, c'est elle la plus jolie.
Gottener.
Ouais, très bien. Bravo.
Un partout.
Là, il va peut-être falloir aider Guillaume, bon, tu sais pas.
Pas obligé.
Pour hein. Guillaume.
Pas obligatoirement.
Je t'aime. Ne me fais plus attendre.
Ah oui.
Ah bon, faut que j'espère. Ich bin allein, après ça.
Quoi, c'est Varum?
Non, français, non. C'est un chanteur d'origine belge sicilienne.
Ah oui,
De
Frédéric. Adamo.
Non,
Frédéric François, c'est ça?
Oui.
Mais on l'entend pas,
Frédéric François.
Mais... J'ai tous les disques aussi.
Là, on n'a pas entendu Frédéric François, on a entendu sa femme.
C'était Frédéric François, là, qu'on entendait. On n'a pas.
Oui, c'était Marilyn qu'on entendait.
Ah voilà. Allez, 2-1.
Faut chanter.
Ah, peut-être Henri.
Non.
Boris Salvador.
Non.
Francky.
Ça s'appelle Marilyn, cette chanson. Et... C'est un chanteur.
Francky Vincent.
Non. Non, alors il était très connu pour qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il fait.
Oui, c'est
Pierre Vassilou. Pierre Vassilou, très bien. Bon, de par c'est Guillaume, alors.
Et les hommes se mirent à te désirer.
Ah bah oui.
Sourire pour une nuit volée.
Ah, je connais...
Il te bâtira un jour un palais de papier.
Ah,
Marilyn.
Je l'aime, mais ça...
Moi aussi, je l'ai.
Je peux vous donner le point.
Nicolas.
À Perrac, voilà.
Ah, Nicolas Perrac.
Nicolas Perrac, très bien.
Ah, dis donc.
C'était dur aujourd'hui.
Hello, Mary Lou. Goodbye, heart.
Alors, il était très jeune.
Johnny.
C'est Johnny, oui, bien sûr.
Trois partout.
On va
c'est une reprise. Hein.
Continuer.
Vous vous dépêchez quand même.
Pas Guillaume, alors.
Oui.
Marilou.
C'est pas Guillaume.
Maurice Chevalier.
Oui.
Bon.
C'est une vraie
maladie. Marilou, pourquoi donc touche du donc à tout.
Ah,
allez,
oui,
vous dépêchez. Ben on va faire un départage.
Mais non,
oui, on est
allez.
Ah non, il faut qu'il vous posez
avec ça.
Dis-moi, tu donnes-moi ma chance.
Eddie Mitchell.
Oui, on peut dire ça. Allez, c'était les chaussettes noires.
Allez, départage.
Alors, départage, alors, c'est le plus rapide entre eux. Stéphane et vous, Guillaume.
Elvis.
Français. Dick Rivers, alors.
Oui.
Le Elvis français. C'est Pyramide, on joue Pyramide.
C'est Martine qui gagne le séjour.
Bravo.
Relève le silence. Merci Guillaume Gallienne d'avoir
merci
été avec
Stéphane.
Nous.
Merci Stéphane, merci à vous tous.
Je rappelle, le 15 novembre sort Marilyn, c'est un très très beau film. Et c'est vraiment, voilà, c'est au deuxième film qu'on sait qu'on est un réalisateur.
C'est gentil, merci.
Et demain, nous serons avec Alexandra Lamy. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne journée à l'écoute d'RTL. RTL, il est midi et demi.
Vous écoutez RTL.